Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, bienvenue dans Les Fous du Volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 en compagnie de Stéphane Vrignot. Salut Stéphane.
Salut Gilles, salut à tous, en forme et toi Gilles?
Impeccable. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au menu du jour, évidemment, on va parler, on ne pouvait pas passer à côté de cet énorme accident de Romain Grosjean. On a tous vu les images et on est avant tout très très heureux tous de savoir qu'il se remet bien. On a choisi dans Les Fous du Volant d'évoquer cet accident sous deux aspects. D'abord, un aspect technique, on va revenir sur ce qui a bien fonctionné et éventuellement sur des pistes pour faire que on progresse encore en matière de sécurité en Formule 1 et en compétition de sport mécanique dans son ensemble. Le deuxième point qu'on va évoquer avec Stéphane, c'est le côté humain, la réaction que peut avoir un pilote pendant et après ce genre d'événement. Et on aura un invité absolument exceptionnel pour évoquer ce facteur, un triple vainqueur des 24 heures du Mans. Benoît Trélulier nous rejoindra pour cette partie de l'émission. Et puis ensuite, on parlera du prochain Grand Prix, le Grand Prix de Sakhir, avec un absent de marque, puisque Lewis Hamilton ne sera pas au départ de ce Grand Prix, positif au Covid-19. Voilà pour le menu. Stéphane, on commence donc cette émission des Fous du Volant post-Grand Prix de Bahreïn, avec évidemment ces images à la fois terribles et heureusement, finalement, Romain Grosjean s'en sort très très bien de cet accident au premier tour. Ça nous donne l'occasion, je le disais, de faire le point sur tous les éléments qui ont fonctionné au moment de cet accident d'un point de vue technique. D'abord, parlons de ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'habitacle de la monoplace, à la fois où se trouve le pilote, la crash box devant, le halo qui ont fonctionné. Et je crois qu'on peut revenir, hein. La crash box, ça fait longtemps, enfin en tout cas l'habitacle, ça fait longtemps qu'on voit que c'est très très résistant aujourd'hui et qu'on sait les faire très résistants. Le halo, c'est arrivé en 2018. Et ça a été quasiment imposé par un homme, quasiment contre tous. Et aujourd'hui, il faut lui rendre hommage.
Oui, tu parles de Jean Todt, Gilles, effectivement, le président de la Fédération internationale de l'automobile, qui réfléchissait déjà à une protection de cockpit après des accidents qui avaient été choquants. Il y a eu, alors j'en passe, hein, mais c'était Felipe Massa en 2019 qui avait pris un boulon dans la visière et qui avait failli l'éborgner, les accidents mortels de Dan Weldon, de Justin Wilson en IndyCar, parce qu'un président de la Fédération internationale, il regarde les autres disciplines, hein, tout ne se passe pas en Formule 1, il y a eu des drames en Formule 2 avec le jeune Henri Surtees, et puis il avait dit qu'il faut maintenant protéger, en fait, faire en sorte que le pilote ne puisse pas être touché directement par un projectile et même être protégé en cas de tonneau, parce que il y avait aussi des soucis, des questions sur ce plan-là, et c'est lui qui l'a imposé en 2018. Il avait proposé deux solutions, une sorte de pare-vent en vitrage blindé que l'IndyCar a obtenu sous licence Red Bull. Et puis, après des tests en essai, je me souviens, c'est Vettel, je crois qu'il avait testé, il avait fait un tour avec cet aéroscreen, il avait dit non, en fait, on ne voit pas bien à travers, ce sera le halo, finalement, c'était l'autre solution. Et Jean-Todt avait dit, bien, on l'appliquera à partir de 2018, et c'est ce qui a sauvé la vie à Romain Grosjean.
Alors, ça, c'est pour le côté, on va dire, sur la résistance de la voiture autour du pilote. Il y a l'équipement aussi du pilote. On a entendu beaucoup de choses. Moi, j'ai contacté, avant de faire cette émission, Romain Morisot, qui est le patron de Stand 21, qui est une célèbre société qui fait des combinaisons homologué FIA, alors que j'ai mon installation qui est en train de s'écrouler, mais on va continuer, tout va bien. Et lui, il m'a expliqué vraiment le protocole pour faire homologuer une combinaison. Alors, faut savoir que les combinaisons sont faites dans une matière qui s'appelle le Nomex. C'est de la fibre aramide. Il y a deux tests, un pour le feu, un autre pour la chaleur. Le test pour le feu, c'est simple, on met une flamme directe sur le tissu. Ça doit résister au moins 10 secondes sans qu'il y ait de trou dans le tissu et sans qu'il y ait de persistance de flamme 2 secondes après qu'on ait retiré le feu. Ça, c'est le test sur le feu. Et qui me disait Romain Morisot, est le plus simple en fait, parce que le test le plus dur, c'est celui de la résistance à la chaleur. Là, on va mettre un brûleur d'un côté, le tissu de l'autre, et on va mesurer en combien de temps la température de l'autre côté du brûleur, et donc protégée par le tissu, monte de 24 degrés. Donc, on sait qu'on ne va pas pouvoir résister indéfiniment à la température, simplement on essaye de gagner du temps. Et cette année, à partir de 2020, les combinaisons devaient résister 12 secondes avant que la température franchisse 24 degrés de plus. Sous la combinaison, sous la première combinaison, celle qu'on voit, il y a aussi une autre combinaison, un sous-vêtement, qui lui doit résister, je regarde mes notes, qui doit résister 5 secondes. Ça veut dire que l'effet cumulé des deux fait gagner du temps pour éventuellement s'extraire d'un habitacle en feu. C'est exactement ce qu'on a vécu avec Romain Grosjean. Les gants, c'est pareil, ils sont testés. 11 secondes de résistance sur le dos de la main, 8 secondes pour la paume. Et on voit bien que Romain a été brûlé aussi au niveau des mains parce qu'il a essayé de se dégager et qu'il était dans les flammes. Les chaussures, c'est 11 secondes. La cagoule à l'intérieur du casque, c'est 5 secondes. Le casque à l'intérieur lui-même est anti-feu. On a bien compris, en fait, la problématique, c'est de gagner du temps parce que de toute façon, on ne peut pas rester 3 minutes dans les flammes, sinon on est asphyxié. Donc, on voit que tout ça, ça a quand même bien fonctionné. Et puis, il y a aussi un autre système que tu voulais évoquer, Stéphane, qui, on n'en parle même plus, mais ce n'est pas si ancien en Formule 1 et ça protège le cou des pilotes.
Oui, alors c'est le HANS, en fait, qui limite les mouvements du cou, en fait, d'avant en arrière et aussi sur les côtés, aidé par la protection, en fait, de cockpit qui entoure le pilote et qui a certainement aussi sauvé Romain d'un coup du lapin ou en tous les cas d'un choc très important, puisqu'il a encaissé un choc à 200. C'est le moment où il frappe le rail, il évolue à cette vitesse-là. Et c'est un choc de 53 G. Ça veut dire que la tête d'un humain, en fait, qui pèse 5 kg, est multipliée par 53. Son poids est multiplié par 53. Donc, ça fait un peu plus de 260 kg qui agissent sur les cervicales. Donc, c'est ce HANS-là, cette protection de la tête et du cou, qui a aussi sauvé Romain. Tous ces dispositifs étaient ultra importants. Tous ont joué le rôle. Et c'est. Aucun n'a failli et c'est cette chaîne en fait de la sécurité qui a bien fonctionné et qui l'a sauvé.
Alors ça c'est effectivement pour tout ce qui a fonctionné. Il y a des choses moi sur lesquelles je me pose quelques questions. Alors je dis pas que j'ai des réponses. On cherche surtout pas à critiquer hein, dans les circonstances qu'on connaît là. Ça serait vraiment pas opportun. Mais par exemple, je me demande si la zone de dégagement à cet endroit-là du circuit était suffisamment grande et surtout équipé d'une surface qui permet aux autos de se ralentir suffisamment. Est-ce qu'une matière un peu plus abrasive comme il y a par exemple sur le circuit du Castellet ou un bac à gravier tout simplement, ça n'aurait pas davantage ralenti la voiture. Ce qu'on sait, c'est que dans ce cas de figure, de toute façon, la FIA va analyser tout ça et va réfléchir à des solutions pour améliorer encore le système. Je me demande s'il n'y a pas une piste à envisager de ce côté-là et d'autres pistes. Il y en a plein, Stéphane.
Oui, alors le rail est à peu près à quoi, 10-15 mètres maxi de la piste parce qu'à cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle un sifflet, c'est-à-dire une ouverture dans les rails qui permet à des véhicules d'intervention rapide de sortir et d'aller secourir un pilote en piste. Donc, on se retrouve sur un espace très, très réduit. Ça ressemble à une anomalie, forcément, parce que ce qu'on réclame sur les circuits modernes maintenant, c'est de mettre le public finalement assez proche des voitures. Alors, on essaye de réduire cette distance leur permettre de mieux voir. En échange, on a mis des grillages qui sont assez grands. Mais de l'autre côté, je dirais qu'il n'y avait pas de tribune. Donc, c'est un endroit qui est assez libre. On essaie de choisir, j'imagine, le meilleur endroit. Il faut trouver un terrain pour construire un circuit. Sauf que là, on est assez libre de trouver de l'espace. Mais il n'y en a pas, finalement. Et c'est vrai que c'est assez étrange. Et Romain, quand il file tout droit, ben, il ne peut pas tourner, il ne peut rien faire. Il n'est pas sur une,
il a sur pas
une
le temps.
Surface qui lui permet, voilà, c'est ça, d'esquiver un mouvement ou d'essayer de faire en sorte que l'angle de choc soit moindre. Et puis, cet endroit-là, il est un petit peu dangereux aussi parce qu'on voit que la voiture aurait pu rebondir. Alors, un accident comme ça qui arrive en début de peloton, ben, ça fait que la voiture devient un projectile en plein milieu du peloton en course et que ça peut faire des accidents en chaîne. C'est assez étrange. Je trouve qu'il y a peut-être une piste de réflexion là-dessus parce que apparemment, ce n'était pas dans les probabilités qu'il y ait un accident là-dessus. Il faut savoir que la FIA, quand elle homologue des circuits, elle impose des contraintes extrêmement fortes, des normes extrêmement fortes. Elle modélise aussi ses circuits. Et pour organiser la sécurité, elle sait précisément, selon la configuration d'un virage, d'un passage, à quelle vitesse on passe, etc., quelle est la probabilité de sortir à tel ou tel endroit et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour protéger les abords. Voilà. Alors, ce rail aussi, il est un petit peu étrange parce que c'est un rail, on va dire, simple, entre guillemets, évidemment. Hein, il a bien fait son office, mais on voit des choses dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de dégagement comme à Monaco. On a des tech pros qui font bien leur office. Mais encore une fois, aujourd'hui, les circuits qu'on a en Formule 1, c'est une somme d'expériences du passé où on a testé plusieurs choses. Et des fois, c'est le tech pro qui était plus adapté à un rail ou inversement. Donc, c'est une expérience qu'on construit. Mais là, effectivement, la FIA a lancé une enquête. Ça va durer plusieurs semaines. On aura des conclusions et des conclusions qui vont peut-être remettre en question aussi des installations sur beaucoup de circuits dans le monde entier.
Exactement, là, tu faisais référence au travail d'anticipation que fait la FIA. Ça me fait penser à une phrase que m'a dit justement Romain Morisot ce matin. Il faut, quand on travaille dans la sécurité, il faut savoir que l'impossible peut survenir. Et on est vraiment dans ce cas de figure. J'ai trouvé cette phrase vraiment très, très instructive. D'ailleurs, je souligne que Romain, lui, a une combinaison Alpine Star. Il est équipé en Alpine Star, mais c'est les mêmes protocoles. Donc, de toute façon, on peut parler des marques. Il n'y a pas de souci. Moi, ce rail, je suis quand même surpris qu'il se soit éventré et qu'il ait quelque part capturé la cellule de Romain. Ça me questionne. Je ne dis pas qu'un mur en béton aurait été mieux parce que je ne suis pas convaincu qu'au niveau des dégâts, ça n'aurait pas fait plus de dégâts que cela sur l'intégrité physique de Romain Grosjean. Mais est-ce qu'un mur de pneumatique n'aurait pas amorti aussi le choc? Je pense que c'est vraiment des pistes qu'il va falloir prendre en compte du côté de la FIA et on peut leur faire confiance. On voit bien que les progrès sont quand même énormes. D'ailleurs, Romain l'a dit lui-même, hein, j'étais pas pour le halo et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de halo, je ne serais pas là pour vous parler. C'est dans la vidéo qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Bah, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jules Bianchi, hein, quelque part. L'accident tragique, le sacrifice de Jules Bianchi, il a sauvé dimanche dernier un père de famille. Ça reste quand même assez admirable. J'ai une question aussi sur l'intervention de la voiture médicale. Elle est arrivée très très vite, c'est vrai, mais elle est arrivée très très vite parce que l'accident, il a lieu au deuxième virage. Que se serait-il passé si c'était arrivé, je ne sais pas, à l'avant-dernier virage du circuit? Il aurait fallu un délai beaucoup plus grand pour intervenir. Je pense qu'il faut peut-être penser à ça aussi, voir comment on peut transporter beaucoup plus vite, parce qu'on a vu que c'était important, des secours aux pilotes, là, je crois qu'ils sont arrivés moins de 10 secondes. Ouais, voilà, c'est impeccable, mais c'est impeccable parce qu'on était au tout début du circuit. Je pense qu'il faut peut-être envisager de mettre, je ne sais pas, une deuxième voiture médicale prête à intervenir à différents endroits du circuit. J'ai deux autres questions. On se pose beaucoup de questions, Stéphane, mais ça fait aussi partie de ce genre de contexte. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de mettre moins de carburant dans les voitures au départ? On sait qu'une Formule 1 aujourd'hui, au départ, elle embarque 110 kg d'essence pour faire l'intégralité du Grand Prix, eh ben, si on se dit que par sécurité, il vaut mieux mettre moins d'essence, on réinstaure les ravitaillements en carburant dans les stands. On sait le faire, hein, en championnat du monde d'endurance, il y en a, et à part quelques tout petits incidents, il n'y a pas eu de gros pépins depuis des années, et ça permettrait comme ça d'avoir un risque d'incendie moindre.
Alors, la question que tu poses, ça vient en conclusion finalement de l'observation de cet accident. Beaucoup d'énergie à dissiper dans le choc, donc en fait, une voiture qui se disloque, l'avant qui s'encastre dans le rail et qui, je trouve, a bien répondu. Puisqu'il s'est déformé, c'est vrai qu'un mur, ça aurait été un point d'arrêt peut-être dramatique, même c'est même sûr. Donc, il a absorbé une partie de l'énergie, la voiture a pivoté, et là, il y a encore une quantité fabuleuse d'énergie à dissiper. Il faut que quelque chose cède quelque part. Et la cellule de survie, hein, étant une pièce qui est finalement indivisible, c'est derrière que ça a cédé. C'est un petit peu surprenant, c'est cédé au niveau du réservoir, et c'est là la question qui s'est posée. Il s'est éventré, donc tout l'essence s'est répandu, et puis sur les échappements, ça part tout de suite, les échappements sont à 800 ou 1000 degrés, donc les batteries ont explosé aussi. C'est un événement exceptionnel, je dirais. Je crois que le dernier choc comme ça qui a causé un incendie, c'était peut-être Berger à Imola en 89. Donc depuis, il y a eu plus de 500 Grands Prix, ça a été la moitié de l'histoire du championnat du monde, plus de 500 Grands Prix, sans ce souci de réservoirs qui sont normalement bien protégés, qui sont inaccessibles à ce genre de dégâts. Je pense qu'on va les renforcer. Ils sont déjà prévus normalement pour empêcher l'essence de s'échapper avec des systèmes de clapets automatiquement. Quand les canalisations, il y a une canalisation qui se rompt, il y a des clapets qui empêchent la communication entre l'intérieur du réservoir et l'extérieur. Et je ne pense pas que la solution se situe dans la suppression, enfin le retour des ravitaillements, parce que c'était un danger finalement aussi d'avoir 20 période de ravitaillement dans la pit lane avec un environnement de personnes autour qui ont fait quelque chose de dangereux aussi. Ce matériel, il ne faut pas oublier qu'il a un coût. Et là aussi, quand on a cherché un peu à alléger les coûts en Formule 1, on a dit, bon, on enlève aussi ça. Et je trouve aussi que ça met une pression finalement supplémentaire sur des pit crew, et que la Formule 1, ça ne doit pas être un championnat du monde des mécaniciens. Il faut en rester à ce qui se passe en piste. Donc, Max Mosley avait remis les ravitaillements pour une question de choix. Globalement, il avait expliqué que chacun pourrait mettre la quantité d'essence qu'il voulait et s'offrir une position avec 8 ou 10 tours d'essence, et que n'importe qui pourrait viser la pole position. Ça a été un échec de ce point de vue-là total. Et la conclusion, c'est on y retourne. On a ces images aussi de Massa qui perd le titre, je crois que c'est en 2008, à Singapour, il part avec le matériel de ravitaillement, ou sait-il dans ces mêmes années. Ça a mis plus de pression, et je trouve que ça a déplacé le problème. Et je crois qu'il ne faut pas faire à partir d'une exception, finalement, il ne faut pas essayer d'écrire une règle en conséquence. Mais bon, c'est une piste de réflexion en tous les cas. La FIA nous donnera ses conclusions. On aura certainement aussi les avis des pilotes et puis des patrons d'équipe là-dessus.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cet accident, il a fait réagir, il a choqué, parce qu'un incendie de cette ampleur, on n'en avait pas vu depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme tu le mentionnais, Stéphane. Et donc, forcément, techniquement, la FIA va décrypter comme ça se passe pour un crash aérien ou un accident ferroviaire. On va vraiment revenir techniquement sur chaque point pour en tirer les enseignements et éviter que ce cas de figure se reproduise, même si on sait que maintenant, c'est un cas sur un million. Mais tant pis, on va chercher du côté de la FIA à tirer les leçons de cet accident de Romain Grosjean. Alors, pour cette deuxième partie consacrée à ce Grand Prix de Bahreïn, on va évoquer l'accident de Romain Grosjean en compagnie de Benoît Trélulier, qui a accepté notre invitation pour nous rejoindre. Alors, on va expliquer un petit peu les coulisses. Hein. Le hasard a fait qu'on a fait, et d'ailleurs, on vous invite à aller voir ce sujet où on essaye d'élire le plus beau circuit du monde. Bon, on n'était pas d'accord. C'est pas grave, en fait, ils ont chacun leur charme. Mais donc, le hasard a fait qu'on est en compagnie de Benoît. Et Benoît, dans sa carrière, il a quand même eu quelques belles boîtes, c'est comme ça qu'on dit dans le métier. On peut en sourire parce que Romain, il s'en sort très très bien. Je sais que tu as vu cet accident, Benoît. J'aimerais bien qu'on essaye de voir, forcément, quand on devient pilote professionnel, j'imagine qu'on sait qu'on va devoir affronter à un moment ce genre de choses. Est-ce qu'on se prépare à la fois mentalement et puis dans les procédures à vivre un accident violent?
Non, on le sait, mais on ne se prépare pas parce qu'il n'y a pas de façon vraiment de se préparer. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout bien prévenir son entourage. Je veux dire, quand tu es jeune pilote et que tu rencontres une jeune femme ou que tu as des enfants, il faut essayer de leur faire comprendre et les préparer eux plus et à leur dire et surtout à leur faire comprendre que toi, ton métier, tu le fais jusqu'au bout et que tu es prêt à mourir pour gagner. Mais tu feras tout pour ne pas mourir, bien sûr, on est bien tous d'accord, mais tu sais que le risque est présent. Donc, malgré la sécurité qu'on peut avoir aujourd'hui dans le sport automobile, il y en a souvent qui disent maintenant le sport automobile, tout le monde est capable d'aller vite parce qu'il n'y a plus de risque. Ce n'est pas vrai, on l'a encore vu ce week-end. La FIA a beaucoup travaillé, tous les médecins, tous les constructeurs, tout le monde travaille d'arrache-pied pour sécuriser au mieux les pilotes et les spectateurs et les commissaires, etc. Mais il faut savoir que le risque est toujours présent et il sera toujours présent. Ça n'existera pas. Le sport automobile avec le risque zéro, ça n'existe pas, que ce soit en moto ou en sport auto ou même dans tous les sports. Je veux dire, ça peut arriver. À partir du moment où on fait un effort physique et qu'on prend des risques, on a ce risque. J'ai vu encore aux informations une traileuse qui est tombée en faisant un trail et qui est décédé. Donc, mais en sport auto, on chatouille encore un peu plus.
Ouais, ça va plus vite.
Donc, c'est vrai qu'il faut se préparer mentalement, mais nous, on le sait, je veux dire, on est comme ça ou on grandit comme ça. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans notre tête. Je ne sais pas comment je me suis, moi, développé en sachant que tout ce que j'allais faire, j'allais risquer de mourir. J'ai commencé par le motocross. Je ne fais que les trucs qui me font tuer.
Donc, c'est ça.
Voilà, je me casse un peu maintenant, mais par contre, c'est ce qui nous fait vivre aussi, ce qui nous fait vibrer. Mais au lieu de se préparer soi, il vaut mieux préparer son entourage.
Alors, les pilotes, quand même, doivent respecter certaines choses pour pouvoir être pilote professionnel. Je pense à sortir du monoplace, je crois que c'est 5 secondes. Mais est-ce qu'on va au-delà de ça? C'est-à-dire qu'on connaît son environnement, c'est le cockpit, c'est le bureau de travail, c'est tout l'univers du pilote. Après, on pilote de jour en Formule 1, où on a toujours un éclairage. Au Mans, ça peut être aussi de nuit. Est-ce qu'on se pose tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'on ferait quand ça arrive selon certains types de situations ou certains endroits? Il y a peut-être aussi des circuits où on passe, donc à chaque fois, à chaque tour, on se dit « là, il ne faut pas que je sorte parce que ça va faire mal ». Est-ce que derrière, quand même, on se conditionne inconsciemment?
Oui, alors il y a des endroits, oui, des endroits bien spécifiques sur des circuits. Tu sais que bon, il faut faire un peu plus attention, un peu plus concentré, un peu plus précis qu'à d'autres endroits. Mais généralement, c'est pas là que ça se passe. C'est souvent sur des faits de course ou une casse mécanique qui fait que voilà, ça peut engendrer des gros accidents. Après, il y a à certains endroits, bien sûr, voilà, ça casse et c'est là où il faut pas que ça casse. Mais on n'est pas vraiment préparé, on ne s'entraîne pas, on s'entraîne à sortir du cockpit, mais j'avouerai, pour être honnête, hein, quand on nous demande, la FIA nous demande, voilà, c'est toi qui es désigné à sortir en moins de tant de secondes du cockpit, c'est vert, bah, je veux dire, hein, ça tombe sur moi, quoi. Parce que voilà, on ne s'entraîne pas toutes les 5 minutes, parce que quand on le fait, on s'arrache des bouts de peau sur les tibias, on sait que pour sortir dans le temps imparti, il faut donner tout ce que tu as parce que
il faut s'arracher.
Quand on, je me rappelle quand on était chez Audi et qu'ils nous présentaient le mock-up de le modèle, le futur de la future coque, on leur disait mais on n'arrivera jamais à changer de pilote en moins de 20 secondes, vous avez vu comment vous avez fait ça, c'est pas assez grand, et ils rigolaient tout le temps, vous dites ça là tout le temps et vous arrivez, vous changez en 15 secondes. Et c'est vrai parce que on travaille et à chaque fois qu'on arrive sur un circuit, on s'entraîne à sortir, rentrer, sortir, rentrer. Je suppose qu'ils le font un peu moins en Formule 1, mais c'est un peu plus facile de sortir d'une Formule 1, malgré que maintenant, avec le halo, ce soit un peu plus compliqué. Mais ils s'entraînent moins parce qu'ils n'ont pas besoin de changer de pilote. Mais il faut savoir que il y a quand même, je ne sais combien, 20 et quelques courses en F1, et ils sont quand même tout le temps dans leur voiture. Et d'enlever le volant, d'éclipser le volant, le remettre et s'extraire du cockpit, c'est une habitude. Comme quand quelqu'un qui fait du vélo tous les jours, il ne réfléchit pas à quelle pédale il part, il le sait. Et c'est juste, il le fait machinalement, quoi. C'est une habitude. Et sortir d'un cockpit quand tu es en feu, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu le fais. C'est l'adrénaline qui te fait réagir et tu connais ton environnement. C'est ton environnement, c'est là où tu passes le plus clair de ton temps à être 100% concentré.
C'est-à-dire que vigilant. Ouais,
quand tu es dans ton motorhome à discuter avec ton ingénieur, bon, bah, tu es concentré. Mais quand tu es dans la voiture, c'est plus de la concentration, ça va au-delà, c'est à 1000%.
La question que je me pose, là c'est intéressant ce que tu nous dis, en fait, il a quelque part agi d'instinct parce qu'il faut penser à défaire son... Il était en plus, on parle de Romain Grosjean, dans une position un petit peu délicate, il a quand même pensé à défaire son harnais, sinon il serait resté bloqué. Mais quand on se sort d'un accident comme ça, la fois d'après, quand il faut remonter dans la voiture, est-ce qu'on repense à ça ou ça y est, c'est évacué?
En fait, ça dépend comment tu as été touché physiquement. J'ai eu la chance de m'en sortir sans rien sur des gros gros accidents, comme par exemple en 2009 avec la Peugeot au Mans, où je me suis envolé à plus de 150 km/h, où la voiture était complètement désintégrée, mais j'avais rien. Le week-end d'après, je roulais en Super GT en Malaisie, je gagne la course et ça m'a rien fait. Je n'ai pas eu peur de remonter dans une voiture de course. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'était chez Henri Pescarolo, parce que les mécanos travaillaient toute l'année comme des fous, parce que voilà, il y a ce côté émotionnel, l'amour du team, ça m'a fait mal. Mais de remonter dans une voiture le week-end suivant, ça ne m'a rien fait. Par contre, quand j'ai eu un accident en 2007 à Suzuka, où là, j'ai cru que j'étais mort au moment de l'impact, où je me suis retrouvé en fait exactement dans la même situation, exactement. Le moteur détaché avec l'essence partout, j'ai eu la chance, il n'y a pas eu d'étincelle, ça n'a pas pris feu. Mais voilà, j'avais les pieds dehors, j'avais les doigts de pied cassés, j'avais les genoux complètement, les ligaments complètement détendus, l'oreille interne touchée. Bon, là, j'avais morflé. J'ai été deux mois sans pouvoir reprendre le volant. Quand tu remontes dans la voiture sur le même circuit, c'est un peu compliqué. Surtout, je venais d'avoir un gamin, mon gamin avait 1 an. Là, ça te fait réfléchir quand même. Et donc, tu montes dans la voiture, tu te dis, bon, allez, on y va, tu te forces un peu. Mais tu passes devant la ligne droite des stands, tu as déjà oublié. Et donc, il y a ce côté un peu foufou du pilote ou du sportif qui aime l'adrénaline, où il y a des moments, voilà, il est comme tout le monde, il réfléchit. Et puis après, il ne réfléchit plus, il fait sa passion. Et je crois qu'on aime tellement ça que le risque, ça passe après. Et alors, on respecte tout ce qu'il y a autour. Il y a une sorte de respect envers les circuits, la voiture, les virages, etc. Mais on arrive à dominer tout ça par la passion.
Est-ce que, quand même, dans ces cas-là, il y a eu des interrogations de tes proches qui t'ont dit « Est-ce que ça ne va pas très, très mal se terminer, tout ça ?» Et est-ce qu'à un moment dans ta carrière, tu t'es dit « Si j'arrête là, finalement, je suis entier, je passe à autre chose » ou « On est pilote pour toujours ?»
On n'est pas pilote pour toujours, d'accord. Non, je pense qu'il y a un moment, on a la passion, elle, elle s'est toujours pas éteinte, mais je pense que moi, j'ai l'exemple de mon boss au Japon, qui était un pilote qui a roulé jusqu'à 50 ans. Je me suis dit, ce mec, il roulera toute sa vie. Du jour au lendemain, il a arrêté de rouler, il veut même plus rouler dans une voiture. Il aime plus conduire. Et donc, je me dis, ça peut arriver. Si lui, à 50 ans, il disputait encore des courses de Super GT, du jour au lendemain, il a arrêté et il veut même plus faire des démonstrations, je me dis, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Un jour, ça va certainement s'arrêter. Sur la question est-ce qu'il y a eu un jour dans ta carrière où tu as pensé arrêter parce que tu t'es dit, c'est peut-être le moment d'arrêter, ça m'est arrivé une fois quand même. Alors, même si l'accident en 2009 ne m'avait pas marqué, quand j'ai été contacté par Audi et qu'ils m'ont dit, voilà, on aimerait que tu roules, j'avais quand même été sauvé grâce au cockpit. C'est-à-dire, si j'avais été dans une voiture ouverte, je ne serais plus là aujourd'hui. Et quand ils m'ont téléphoné, Audi t'appelle pour faire le Mans. Et puis, tu t'étais dit dans ta tête, je ne roulerai plus jamais dans une voiture ouverte. Et tu fais, bon, on va faire encore une exception. Le jour où tu arrives sur le circuit, que tu pars et que tu passes dans le virage, ça t'a quand même marqué un petit peu, même si sur le coup, tu n'as pas vraiment réalisé. Tu t'en rends compte un an après, quand tu te retrouves au même endroit avec un peu le même style de voiture, mais tu te dis, si j'avais été dans cette voiture-là, peut-être que je serais mort. Ça te fait réfléchir. Et j'ai eu du mal, la première séance d'essai, à me mettre dans le bain. Et puis, le coup d'après, ça allait mieux, quoi. Donc, ouais, je me suis posé, c'est la seule fois dans ma carrière que je me suis posé la question.
Bah, c'est intéressant. On a eu une réaction de Daniel Ricciardo, je ne sais pas si tu as si tu as vu, qui a trouvé, il a employé le terme de dégoûtant, en fait, d'avoir montré les images. Alors d'abord, juste dire, Daniel Ricciardo, on sait que c'est quelqu'un de très humain et on ne va pas du tout critiquer sa réaction parce qu'en plus, étant sur l'instant, sur les lieux, évidemment que ça a dû le bouger. J'ai trouvé que la réalisation avait très, très bien travaillé parce qu'on voit l'accident au loin. Ils n'ont absolument rien montré jusqu'au moment où on a vu Romain dans la voiture médicale et où là, on s'est dit, bon, ça va. Et donc, je pense que là-dessus, ils ont bien bossé. Justement, je pense à ton accident au Mans parce qu'il se trouve que moi, j'étais à l'antenne sur Eurosport. Et d'abord, on a vu une forme métallique au fond d'un bac à gravier. C'était au Tertre Rouge, me semble-t-il. Au fin fond du bac à gravier, donc qui n'était pas éclairé. Et déjà, il a fallu le temps de reconnaître la voiture. Et derrière, quand moi, j'ai vu l'Isère, j'ai dit, ah, ça me paraît bien être la Pesca. Et donc, à ce moment-là, je comprends que c'est Benoît Trélulier qui est dans la voiture. Et donc, à ce moment-là, moi, je me dis, peut-être qu'il y a monsieur et madame Trélulier, parents, ou éventuellement madame, devant l'écran. Donc, il faut aussi faire attention à ça, mais en même temps, on fait pas de la télé pour la famille des pilotes. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Sur le coup, je comprends la réaction de Daniel Ricciardo qui s'est identifié aussi. Il a imaginé aussi son entourage. Je sais pas comment formuler ma question, mais tu comprends à la fois sa réaction qu'il a eue.
Oui, mais chacun. Je peux comprendre sa réaction. Après, franchement. Quand tu es touché, parce que peut-être qu'il est pote aussi avec Romain et ça le touche un peu plus que quelqu'un lambda, je peux comprendre sa réaction. Moi, quand Loïc Duval avait eu son accident au Mans, je ne m'attendais pas à ça, mais ça m'a scotché parce qu'en fait, j'ai pensé à sa femme, ses enfants, il venait d'avoir son deuxième petit garçon et tout de suite, j'ai imaginé le reste, toi.
Exactement.
Le contexte du circuit. Et ça peut te dégoûter parce que là, tu sors du côté professionnel. Tu prends le côté, moi, c'est mon pote, Loïc. Donc, c'était plus le côté privé qui était touché et ça affecte plus que le côté professionnel parce que quand tu signes pour être pilote, ta famille, elle signe avec toi. Tes proches, ils signent avec toi. Tu parlais de mes parents tout à l'heure qui étaient à l'écran, ils étaient dans la tribune en face. Enfin, ils ont vu les voitures rentrer, sauf la mienne, que c'était safety car, grave accident. Ils entendent, ils ont passé 45 minutes pour revenir au box pour voir Henri, pour savoir ce qui se passait. Ils ont passé 45 minutes en pensant que j'étais mort. Donc, mais même s'ils en ont souffert un petit peu, ça fait partie du truc. Moi, ma mère n'a jamais regardé une de mes courses pratiquement jusqu'à tard. Donc, et je savais qu'elle, tous les départs de motocross et tout, elle était dans les toilettes. Est-ce qu'elle n'y arrivait pas? Mon père, il a toujours souffert, ma mère, elle a toujours eu du mal. Mais tu peux, ça fait partie de la vie, de l'entourage aussi des pilotes. Et sa réaction, je peux la comprendre, mais quelque part, venant d'un pilote, c'est un peu bizarre parce que tu es quand même une personne publique. Donc tu peux pas. Je ne dis pas qu'il faut tout savoir, mais à partir du moment où on savait que ça allait bien, on pouvait faire voir. Parce qu'il faut aussi faire voir le côté risqué et arrêter de tout aseptiser. Et de tout trop protéger parce qu'il faut faire voir la réalité. C'est comme les enfants, aujourd'hui on les protège trop et on leur fait pas voir la réalité des choses des fois. Et si tu repousses tout, il y a un jour les gens sont encore plus choqués. Donc je pense qu'il faut laisser, il y a des limites et je pense que ça a été comme tu disais tout à l'heure, ça a vraiment été très bien géré parce que tant qu'on ne savait pas, ils sont restés à l'écart. Bon, j'ai vu que les commentateurs ils avaient un peu de mal à meubler quoi. En plus, la télé française, ils connaissent tous Romain. Donc, tout le monde est un peu plus touché parce que j'imagine que les relations sont un peu plus proches. Mais je trouve que ça a quand même été bien géré. Et la réaction, je ne l'ai pas vue, celle de Daniel Ricciardo, mais dégoûtant, non, parce que c'est du sport, quoi.
Non, je suis d'accord, mais bon, Pour avoir vécu toi ton accident au Mans en étant à l'antenne, c'est toujours très 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 compliqué hein, comme moment. Je trouve que d'ailleurs Julien Febro a été plutôt très très bon sur l'exercice. Et après, quand on est sur place, moi je me souviens aussi en rallye raid, un accident mortel, c'est très compliqué aussi de garder un petit peu du recul sur l'événement. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Daniel Ricciardo et vraiment on ne le critiquera pas. Mais c'était intéressant d'avoir toi ton avis sur justement la distance parce qu'il y a la famille à côté et la famille en prend aussi pour son grade. Pour la petite histoire, quand toi tu as eu ton accident, donc nous, on comprend assez vite que c'est ta voiture et on finit par nous montrer à la télé une image du box d'Henri Pescarolo. Et je vois un ami qui y est dans le box. Donc je lui envoie un message, je lui dis donne-moi des nouvelles. Et il me dit on vient d'entendre Benoît qui nous dit qu'il est désolé, mais que ça va bien. Et nous, on explose un petit peu de rire dans la cabine d'Eurosport France, sachant que c'était des cabines en verre et qu'à gauche et à droite, j'avais mes collègues anglais et allemands qui, eux, étaient encore pétrifiés. Et quand ils nous ont vu rire, ils nous ont dit vraiment, ces Français sont vraiment des couillons. Jusqu'au moment où il y a eu une pause publicitaire et on a pu leur dire qu'on t'avait entendu, que l'info était sûre à 100%. Et on a pu un peu se détendre. Mais en tout cas, merci beaucoup, Benoît, de nous avoir donné ton ressenti sur cette situation qui est très, très particulière parce qu'il y a la vie des journalistes qu'on est, Stéphane et moi, et puis il y a la vie de ceux qui ont vécu ce genre de choses comme toi et ta famille. Et c'est toujours très, très intéressant. Merci beaucoup, Benoît.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Merci, Benoît.
Le troisième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est ce coup de tonnerre dans le paddock avec le test positif à la COVID-19 de Lewis Hamilton qui ne pourra pas participer donc au Grand Prix de Sakhir. On sera toujours sur la même enceinte à Bahreïn avec un tracé différent et donc on n'aura pas notre champion du monde en titre parce que après avoir été cas contact, il a donc été retesté ce lundi et donc il a été testé positif. Lewis Hamilton ne participera pas à ce Grand Prix. J'ai envie de te dire, Stéphane, qu'il y a certains pilotes dans le paddock qui en ont rêvé toute la saison et ça y est, c'est enfin arrivé.
Oui, tout à fait, Gilles, et c'est bien la preuve que ça peut arriver à tout le monde. C'était l'obsession du début de saison chez Mercedes, faire attention, etc. On a vu, moi personnellement, j'ai l'impression que ils étaient, c'est pas plus rigoureux, mais ils avaient plus peur en début de saison que maintenant où ils ont appris peut-être à vivre un petit peu avec cet environnement-là et même s'il y avait toujours la menace, mais comme on n'avait pas eu d'autres cas que ceux de Perez et de Stroll, on pensait qu'on allait terminer la saison comme ça avec ce qui aurait été deux exceptions finalement. Et c'est arrivé, et à Lewis Hamilton. Et moi, ça me fait penser à ce que disait aussi Helmut Marko, le conseiller sportif chez Red Bull en début de saison. Il l'a répété, il n'a pas arrêté de le répéter à Max Verstappen. Ce championnat peut se jouer sur un cas comme ça qui éliminerait l'un de tes adversaires pour le titre. Et on l'a vu avec Perez, c'était deux Grands Prix en moins. Pour Lewis Hamilton, c'est 50 points qui s'envolent. Alors avec ça, on peut tout à fait imaginer que Verstappen puisse en profiter. Et Helmut Marko avait rappelé à l'ordre ses pilotes et passé le message encore à Max Verstappen en disant « Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont positifs au Covid dans l'entourage de Max Verstappen. » Il l'avait dit à un moment, il avait peur, il entendait parler de ça. Donc, il avait peur que ça se rapproche de Max Verstappen. On avait vu qu'il y avait des bulles qui avaient été créées, que les pilotes devaient être soit chez eux, soit sur le circuit pendant les périodes de Grand Prix, et qu'il y avait une dizaine de personnes donc, qui étaient habilitées à être en contact avec eux, et pas plus, donc ça faisait partie de la bulle. Et normalement, on s'en tenait à ça, et chez Red Bull, on pensait que la bulle pouvait peut-être exploser chez Mercedes, mais c'est arrivé après la conclusion du championnat. Je dirais, heureusement pour Lewis oui. Hamilton… malheureusement peut-être pour Verstappen, mais ça aurait été dommage que
ça se joue là-dessus. Ouais. Exactement, ça c'est sûr. Alors après, l'important, hein, c'est que maintenant Lewis Hamilton se remette bien. Mais bon, c'est un garçon qui est en pleine forme physiquement, donc a priori, ça devrait bien se passer pour Lewis Hamilton. qui sort quand même au passage d'une série de 5 victoires consécutives, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2014. C'était déjà lui en 2014, et je suis remonté encore un petit peu plus loin. En 2013, Sébastien Vettel avait fait encore mieux, 9 victoires. Ça, c'est pour la statistique et le côté sportif. Ça fait du bien de parler aussi un petit peu de sport après ce Grand Prix. Ça veut dire donc que Lewis Hamilton ne pilotera pas la Mercedes. Et donc, la question maintenant, c'est qui a la place de Lewis Hamilton au volant de la Mercedes avec Valtteri Bottas. Il y a 3 pistes qui se dégagent, Stéphane. Je ne sais pas, par laquelle veux-tu commencer? Quel est pour toi le favori pour prendre la place de Lewis Hamilton?
Pour moi, le favori naturel, je dirais, c'est George Russell. Il a fait tous les Grands Prix jusqu'à présent, il connaît bien les pneus, il a couru à Bahreïn, même si on va voir un circuit un petit peu différent. Et puis surtout, il passe beaucoup de temps au simulateur chez Mercedes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît toutes les procédures, le volant, les boutons, tout, absolument tout. Et donc, en fait, s'il saute dans la voiture, il se retrouve dans un environnement qu'il connaît déjà. Et ça, c'est un énorme avantage. Et puis, pour le sortir de la Williams, il faut donner un petit peu d'argent. Et je pense que les nouveaux actionnaires de Williams ne seront pas contre non plus.
Ça, c'est effectivement un bon point. Moi, je pense à Stoffel Vandoorne, qui roule donc pour Mercedes en Formule 1, qui a même d'ailleurs rapporté le premier succès de la firme à l'étoile dans cette discipline. Quelque part, c'est son rôle, hein. Il est pilote remplaçant. On a des informations comme quoi il est en route, soit il est arrivé sur le circuit, après avoir fait les tests de la Formule E à Valence en Espagne. Ça peut permettre finalement de ne rien avoir à demander à personne, y compris donc à Williams, même si effectivement il y a quelques arguments qui seraient faciles à faire entendre aux nouveaux actionnaires de chez Williams. Et Stoffel Vandoorne, lui, il a roulé encore récemment. Alors récemment, ça dépend à quelle échelle, mais il a été pilote pour McLaren. Donc, ça peut être aussi une solution de simplicité pour Toto Wolff.
Oui, alors Toto Wolff, moi je pense aussi, pour revenir à Russell, qu'il est curieux de savoir ce qu'il peut donner dans une Mercedes. Mais Vandoorne, on s'en souvient, il avait remplacé au pied levé Alonso en 2016, je crois, après l'accident d'Alonso à Melbourne. Donc, il est arrivé à Bahreïn et puis il était monté à McLaren. L'avantage aussi du Grand Prix de Sakhir, c'est qu'il se disputera sur un circuit, on va dire, simplifié. Donc, l'enjeu est moins complexe du point de vue du pilotage qu'il aurait pu l'être sur le circuit traditionnel. Donc, c'est pour ça que, comme tu le dis, Gilles, c'est une solution de facilité qui ne poserait pas de problème. Et c'est la plus rapide, c'est le chemin le plus rapide. Et il y en a une troisième.
Vas-y, je te laisse.
Il y en a une troisième. Voilà, c'est Hülkenberg. Est-ce que tu vois, Gilles, Hülkenberg dans la voiture?
Alors, je vais te dire honnêtement, j'y crois pas trop à Nico Hülkenberg, parce que je pense que lui ne voudrait pas, en fait, parce que c'est dangereux pour lui qui brigue un volant dans une équipe pour la saison prochaine, et notamment chez Red Bull. Parce que imagine, là, il a quand même fait des remplacements, on va dire vraiment top class chez Racing Point, où il a remplacé Sergio Pérez, qui avait été atteint par la Covid. Il a remplacé Stroll, qui avait été malade. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il avait la Covid lui aussi. Et il a plutôt gagné des points dans ses remplacements quasiment au pied levé. Et c'est ce qui le remet finalement un petit peu en course pour un volant chez Red Bull. Imagine qu'il remplace Hamilton chez Mercedes et qu'il se fasse taper par Bottas, qui est inexistant depuis plusieurs Grands Prix face à Hamilton. Ça le tue totalement dans sa possibilité de négocier un volant pour la saison prochaine. C'est pour ça que je ne crois pas trop, moi, à la piste Hülkenberg.
C'est vrai que Mercedes n'a peut-être aucun intérêt à prendre Hülkenberg parce qu'ils ne le prendront pas l'an prochain. De toute façon, ce n'est pas un pilote Mercedes de base, contrairement à Vandoorne, qui a gagné la dernière course de Formule E aussi. Donc ça, Mercedes peut faire de l'image autour de Stoffel Vandoorne en tant que numéro 2, parce que c'est Bottas qui sera le leader de l'équipe ce week-end. C'est vrai que ça peut être à double tranchant pour Paul Hülkenberg et lui barrer la route de la Red Bull, sachant que Pérez est quand même considérablement éloigné du baquet l'an prochain et qu'il commence à se faire l'idée que ce n'est pas lui qui sera choisi si Albon n'est pas retenu.
Mais n'empêche que cette situation, elle met aussi beaucoup de pression sur Valtteri Bottas, parce que imagine que ce soit de toute façon Van Dorn, que ce soit Hülkenberg ou que ce soit même George Russell, si par malheur il n'est pas devant et loin devant, ça pourrait signer quand même, je peux pas dire je peux pas dire un arrêt de mort, mais en tout cas une très 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 mauvaise note pour le Finlandais là dans les heures et les jours qui viennent. Et je pense que la suite de la carrière de Valtteri Bottas va se jouer.
Oui, et puis il n'a pas encore assuré complètement la deuxième place au championnat, hein, si je ne me trompe
C'est
pas. Donc,
vrai, d'autant plus.
il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Je pense que le choix de Toto Wolff en dira beaucoup sur ce qu'il a derrière la tête. On comprendra assez vite de quoi ça retourne.
Ouais, 12 points d'avance, il a Valtteri Bottas, pour conforter ton propos, Stéphane, par rapport à Max Verstappen, qui pourrait donc terminer vice-champion du monde de cette saison. Ça aussi, ça sera à surveiller pour le prochain Grand Prix. On donne les horaires rapidement, Stéphane. Essai libre vendredi à partir de 14h30, la qualification samedi à partir de 18h et la course dimanche à 18h10 sur un tracé donc qui n'est pas le même que le Grand Prix de Bahreïn auquel on a assisté dimanche dernier. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner et à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre application. On s'est tout dit, Stéphane?
Bah écoute, oui, Gilles, tu peux prononcer la formule consacrée
désormais traditionnelle.
Pour refermer
Exactement.
ces clous du volant.
À la semaine prochaine, on coupe le
On coupe
contact.
pas.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.